en ce qui concerne nos catéchumènes. Est-ce que vous avez des questions? Sur l'existence de Dieu, sur les natures et perfections de Dieu, sur le fait que la religion catholique est la seule religion, les autres ont été inventées par les hommes, et donc ils ont des défauts, ils peuvent avoir des rudiments de la religion naturelle, mais c'est pas ça. Le monogénisme aussi, le fait que vous soyez tous de la même origine, c'est important, vous voyez, avec le goulot d'étranglement de Noé, Cam, Sem et Japhet, les Sémites, Cam, les Cananéens, avec des Sémites qui sont en Arabie, mais des Cananéens aussi. Les Juifs sont pas les seuls Sémites de l'Orient. Voyez. Et le fait que Dieu ait voulu mettre à part un peuple pour pouvoir le sanctifier, le combler de grâce et de miracles, pour qu'il transmette la foi. Et nous, on s'est développé à partir de là, à travers tous les continents, et nous avons le même sang. Alors, il y a des différences, vous savez, parmi les blancs, entre guillemets, n'est-ce pas, on peut voir les différences de visage, les différences de nez, voyez, peut-être plus que chez des Africains ou des, voyez, mais des Orientaux, des Sémites, mais voilà, cette particularité qui fait que nous avons, dans la foi biblique, une origine de la nature humaine identique. Et c'est vraiment très important, parce que l'Immaculée Conception vient de là. C'est que la Vierge, nous sommes nés et descendants d'Adam et Ève, couple historique. Et c'est à cause de la perte de la grâce que nous-mêmes, nous avons cette difficulté par rapport au don d'intégrité, c'est-à-dire que l'intelligence et la volonté étaient dans l'ordre. Vous voyez. Le baptême va vous remettre cette faute commune du péché originel que vous avez peut-être déjà eu comme en rémission par un acte de charité. Vous voyez, avant le baptême d'eau, on peut déjà avoir la grâce. Mais pour cela, il faut que vous ayez fait un acte de contrition parfaite, de regret de vos péchés, et un acte d'amour parfait de Dieu. En général, la mort, le martyr, n'est-ce pas, vous pousse à cet acte, et le bon Dieu vous donne cette grâce si vous mourrez catéchumène. Et c'est là, mais là, vous n'avez plus que quelques jours pour mourir avant votre baptême. Donc, et on vous enterre à l'église. Vous voyez, c'est le privilège des catéchumènes d'être enterrés à l'église. Et ce qui fait que la chute de l'homme et le péché originel peut vous avoir été déjà remis par un acte d'amour gratuit et méritoire, peut-être même dans votre enfance. Alors, à quoi vous sert le baptême? Le baptême vous remet le péché originel, mais il vous remet aussi tous vos péchés personnels. De manière totale, c'est-à-dire les fautes elles-mêmes et les conséquences des fautes. Totalement, c'est-à-dire que vous mourrez après le baptême, vous allez au ciel. Là, vous avez une occasion, vous tenez jusqu'à samedi. Si vous avez une rupture d'anévrisme ou une crise cardiaque dimanche, eh ben vous ne ferez pas de purgatoire. Mais pourquoi? Parce que vous avez le mérite de croire. En étant pleinement conscient. Tandis que les bébés, eux, la grâce entre en eux, leur remet le péché originel qui est un péché de nature, et ils ne peuvent pas y faire obstacle. Moi, j'ai baptisé un enfant de 2 ans là samedi. Lui ne faisait pas obstacle. C'est celui de 8 mois, 9 mois qui pleurait, qui me, voilà. Mais si vous voulez, l'enfant de 2 ans, quand bien même il aurait pleuré, il se serait débattu, ce qui m'est arrivé il y a 3 4 mois, eh bien, on lui donne quelque chose dont il n'est pas, il ne peut pas être, il ne peut pas avoir la pleine volonté du refus. Quand on est baptisé adulte, le baptême d'eau consacre le baptême de désir. On veut les grâces et les mérites de Jésus. Et là, actuellement, un événement comme l'incendie de Notre-Dame, voyez-vous, c'est un signe de Jésus. Jésus n'est pas content. Voilà. Comme pour les religions païennes, et parfois Dieu, il n'est pas content. Et vous voyez, le fait que dans la semaine sainte, Notre-Dame brûle, c'est forcément un signe. C'est miraculeux, pas dans un sens positif, c'est un miracle, enfin, c'est un signe négatif. Négatif aux yeux des hommes, mais tout ce qui est peine pour une âme consciente est une occasion de conversion, une occasion de réflexion et de prière. C'est pour ça que parfois le bon Dieu permet des deuils avec des circonstances un peu difficiles, voyez. Ici, nous avons un pilier de Saint Eugène qui, le matin, devient vivant et le soir, vers minuit, redevient un pilier. Et ce qui s'appelle Laurence Courtin. Vous voyez? Donc elle est là, à chaque fois que vous entendez un petit bruit, tout ça, c'est elle. Et donc, il y avait l'adoration du premier vendredi du mois. J'arrive et je dis, demain je vais à Courtalain pour l'ordination des ordres mineurs jusqu'au sous-diaconat à l'Institut du Bon Pasteur, à Courtalain, où sa grand-mère avait été en maison de retraite, qu'elle avait visitée, qui a été rappelée par le bon Dieu il n'y a pas très longtemps. Et donc ses parents habitent près de Courtalain. C'est pour ça qu'ils avaient mis leur mère ici, et leur grand-mère, et sa grand-mère. Donc elle m'entend dire que je vais à Courtalain le vendredi soir, vers 23 h, et entre deux entretiens, et je lui dis, on part à 6 h 30 demain matin. Pas de problème. Elle était là pour l'adoration. Elle était là à 6 h 30. On est parti à Courtalain, et elle a vu ses parents le samedi soir, après la messe. Le dimanche, elle est retournée, elle est allée à la messe à Courtalain, elle a passé l'après-midi avec ses parents, en famille. Et le soir, la particularité de Laurence, c'est qu'elle ne veut pas dépenser d'argent inutilement. Elle a un esprit de pauvreté très attaché, d'ailleurs comme son vélo, et elle parcourt des distances à vélo absolument invraisemblables avec un vélo que personne ne voudrait voler, eh bien, elle fait du stop. Et, bon. Et donc, ses parents sont habitués, donc son père l'attendait dans la voiture pour l'amener à la gare de péage de l'autoroute. Elle descend avec ses affaires, son père était dans la voiture, et puis elle voit que son père est penché. Il était en pleine crise cardiaque. Elle est infirmière, donc elle sort son papa, elle essaye de le ranimer, elle appelle les pompiers, tout ça, et il meurt. C'était dimanche dernier, dimanche en 8. Alors vous allez me dire, aux yeux du monde, hein, c'est comme la toiture de Notre-Dame qui brûle, hein, c'est terrible. Eh bien, si vous voulez. C'est là qu'on se sent prêtre, parce que, alors vous allez me dire, ah, c'est plutôt ange de la mort. Mais on se sent prêtre, c'est-à-dire que c'est moi, c'est le bon Dieu qui m'a utilisé pour l'emmener auprès de son père, passer la dernière journée de sa vie avec sa fille, et qu'elle soit présente pour lui au moment de sa mort. Qu'elle l'entende, qu'elle prie auprès de lui. Voilà. Il avait 70 ans et quelques. Et voilà. Et donc, voyez-vous, de toute éternité, le bon Dieu savait je dirais que j'allais à Courtalain qu'elle en profiterait pour venir, qu'on parte à 6 h du matin et qu'elle soit aux côtés de son père. Alors c'est rude hein, comme grâce, hein, mais c'est quand même une délicatesse de Dieu. Et quand on sait, et quand on la connaît, si vous voulez, les gens disent, ah, elle a perdu son père, c'est terrible, elle venait. Mais quand on sait qu'elle va à la messe tous les jours, qu'elle fait des adorations, ben, on se dit, le bon Dieu lui a donné cette petite fleur, violette sans doute, hein, mais quand même. Voilà, c'est comme l'enterrement que j'ai fait vendredi, une dame assez pieuse. Vous voyez, je vous raconte des fioritures avant votre baptême pour croyez en l'existence de Dieu. Et c'est une dame que je connais, en fait, depuis 9 ans, parce que ça, il y a 11 ans, j'ai connu son fils qui venait me servir la messe à 7 h du matin pour pas que je ne sois trop embêté. Messe Saint-Pie-V à Saint-Pierre-de-Chaillot, il y avait très peu de personnes, je ne voulais pas qu'il y ait trop de monde. Et donc, j'ai fini par connaître sa fiancée, et donc la mère de sa fiancée. Et cette dame, comment dire, je la connaissais bien. Assez bien, j'ai donc marié sa fille, j'ai baptisé 2 de ses 3 enfants et j'ai assisté au baptême du troisième. Et tout d'un coup, elle n'arrive plus à manger. Cancer de l'estomac, en 3 mois. Jeanne Garnier au bout de 2 mois et demi. Et elle est restée à Jeanne Garnier peut-être 2, 3 semaines. Et avant de partir, quand je lui avais donné l'onction, je lui avais donné ce chapelet de pacotille. J'en ai fait venir 1 000. Hein, j'en redistribuerai un jour, parce qu'il y a toute une réserve là. Et je lui ai dit, vous êtes à l'hôpital, ne prenez pas votre chapelet. Avec ce chapelet, on pourra vous le voler, vous pourrez le perdre. Et bien, figurez-vous que sa fille m'a dit qu'elle a prié le chapelet avec. C'est une femme pieuse, mais vraiment la tête sur les épaules, hein, pas une grande mystique. Mais une grande croyante. Eh bien, figurez-vous qu'elle a dit à sa fille, bah, tu le croiras ou pas, mais j'ai vu mon oncle à genoux au bout de mon lit pendant quelques secondes. Et alors, moi, je la connaissais aussi, hein, elle n'est pas mystique du tout, hein. Mais quelqu'un de fervente, hein, mais pas. Voilà. Et donc, un truc comme ça, elle aurait jamais inventé ça. Parce qu'il se trouve qu'elle était la petite nièce du cardinal Pierre-Marie Gerlier, qui était un homme assez extraordinaire, qui est archevêque de Lyon, qui a été juste parmi les nations, hein, qui a protégé les Juifs à Lyon de manière, avec beaucoup de courage face à la Kommandantur et tout ce que vous voulez, mais surtout un homme très pieux et très très fort. Et donc jusqu'à l'âge de 15 ans, elle l'a connu. Voyez. Mais de là à avoir un flash de lui en train de prier au pied de son lit à Jeanne Garnier, moi, à mon avis, c'est plutôt que le cardinal Gerlier était tellement un saint homme, vous voyez, qu'il lui a fait une apparition pour la soutenir. Et alors qu'elle aurait pu très dignement, puisqu'elle recevait les sacrements, comme elle ne pouvait plus manger à la fin du tout, du tout, du tout, on lui donnait le précieux sang. Sachez que la communion sous les deux espèces, c'est moderne et ancien. Dans les premiers siècles, on communiait sous les deux espèces, comme les apôtres ont communié à la Sainte Cène. Et puis au bout d'un certain temps, comme les gens n'étaient pas mangés par les lions après la messe, la ferveur s'est un peu diminuée, et du coup, les gens communiaient plus ou moins avec plus ou moins de ferveur, et surtout, il y avait plus de monde aussi après les persécutions. Donc, on a fini en Occident par donner la communion uniquement avec l'hostie, comme Jésus est ressuscité, béaba du catéchisme, Jésus est présent vivant, aussi bien dans l'hostie que dans le calice. Il y a son sang, son corps, son âme, sa divinité dans l'hostie et dans le calice. Donc, vous n'avez pas à être jaloux du prêtre si, parce qu'il consomme aussi le précieux sang. Mais en Orient, on a voulu garder, et ce qui fait qu'on communie par intinction liturgique, c'est-à-dire que l'hostie est du pain levé, une sorte de comment dire, de miche, prédécoupée en dés, plongée dans un grand calice, et ce qui fait que le prêtre, avec une lancette ou une petite cuillère dorée, vous dépose l'hostie imprégnée de précieux sang sur la langue. Impossible de communier dans la main en Orient. Bête, hein? Voilà. Et donc, mais en Occident, manque de piété, manque de ferveur, volonté de maintenir cette piété et cette ferveur, on met les gens à genoux et on communie sur la langue pendant des siècles. Et on ne communiquait plus au précieux sang parce que c'était trop compliqué. Et la communion par intinction, que vous verrez peut-être, vous avez le prêtre. Normalement, quelqu'un tient le calice, une personne tient un plateau, et le prêtre, et pas vous, prend une hostie, la trempe délicatement dans le précieux sang, et faites toute une distance jusqu'à votre bouche, bien sûr, là on ne peut pas communier dans la main, en priant qu'une goutte ne tombe pas sur le plateau. Sans plateau, il est interdit de donner la communion par intinction, parce que une goutte du précieux sang peut tomber, et je l'ai vu déjà une fois, de trop. Mais alors, le prêtre qui vous présente, qui vous donne l'hostie, et quelqu'un à côté qui a le calice, et vous, avec l'hostie, vous plongez dans le précieux sang. Si vous touchez le précieux sang avec vos doigts, donc vous communiez, il y a une goutte qui tombe, et vous sucez vos doigts. C'est vraiment extraordinaire. Vous voyez? Donc il est bien évident que cette coquetterie de la communion sous les deux espèces, quand elle est faite authentiquement, il doit y avoir le prêtre qui prend l'hostie, qui lui-même délicatement, en respectant le précieux sang, dépose l'hostie sur votre langue. Et alors je connais des prêtres qui, pour obliger les gens à communier sur la langue, ont une position très originale. Ils prennent le calice dans le creux du coude, le ciboire dans la main, et ils trempent l'hostie dans le calice et vont le plus directement possible à la bouche, en faisant très attention, parce que comme ils ont le soin que les gens ne communient pas dans la main, ils veulent atteindre la bouche sans qu'il y ait une goutte du précieux sang qui tombe. Pourquoi autant de bricolage? Pour vous plaire. Pour que ça fasse du roux-doudou quand vous communiez. Voyez? Que vous sentiez à l'égal du prêtre, que vous sentiez que vous avez tout. C'est ça, hein? C'est pour ça qu'on a inventé la communion, on a réintroduit la communion sous les deux espèces en Occident. Plus ou moins adroitement. Et c'est pour ça aussi qu'on a restauré la communion dans la main qui existait dans les premiers siècles. Seulement, voyez-vous, les apôtres, les premiers chrétiens, les premiers baptisés dans les années 50, 70, 110, vous voyez, c'est sûr qu'ils communiaient comme avec le Christ, le jeudi saint. Et que notre Seigneur n'a pas demandé à ses apôtres de se mettre à genoux pour les communier. Hein? Seulement, voyez-vous, il leur a dit, je vais mourir. Je suppose qu'ils n'ont pas communié en chantant. Même s'il y a eu un très beau chant au départ, et c'était le chant justement de l'après le repas de Pâques. Mais si vous voulez, et de la même façon, quand il a passé la coupe de bénédiction qu'il a consacrée en son précieux sang, et que nous avons, le Saint Graal, nous l'avons en Espagne. C'est une coupe en agate, c'est une pierre semi-précieuse rouge. Voyez-vous, qui a été, dont le pied et la coupe se sont peut-être cassés. Il y a un ajout d'orfèvrerie pour communier avec deux anses, voyez-vous, et c'est serti avec comment dire, des tiges d'or pour solidariser le pied et la coupe. Mais une coupe en agate rouge, c'est précieux à l'époque. Non, c'est pas très précieux, mais c'est précieux. Pourquoi? Mais parce qu'on n'apprenait qu'une fois par an. Dans une famille, vous avez la coupe du sabbat, mais vous avez la coupe de la Pâque. Alors, il y a des familles qui gâchent un peu les degrés liturgiques et qui utilisent tous les sabbats une belle coupe. Vous voyez? Mais normalement, pour la Pâque, c'est une très belle coupe. Et c'est pas dans un pot en bois, vous voyez? Ou un gobelet. Vous voyez? Et donc, quand il a passé cette coupe de bénédiction de la Pâque, et qu'il a dit que son sang allait être versé pour eux, je peux vous assurer qu'ils ont communié pieusement. Et donc, au bout d'un certain temps, les assemblées étant trop nombreuses, on ne pouvait pas communier dignement au précieux sang. Imaginez, vous aviez 100 personnes. Donc, ils passaient la coupe comme ça, chacun buvait. Me dites, oui, mais il y a un miracle, on n'est jamais malade lorsqu'on boit la même coupe. Vous savez, quand on m'oblige à concélébrer. Moi, je communie par intinction. Je prends l'hostie et, arrivé au calice, je trempe l'hostie, je la retourne et je communie. Et on me dit, mais pourquoi tu prends pas la coupe? Pourquoi tu prends pas la coupe? Et je dis, pour pas vomir. Là, ça les calme, en général. Vous voyez? Je ne sais pas si vous. Parce que l'odeur de la salive me fait vomir. Mais pas la mienne, hein, mais la vôtre. Donc, ces détails étant un peu personnels, un peu directs, un peu cash, comme vous me connaissez, mais ça vous permet, voyez-vous, d'aller à l'essentiel. Ce n'est pas une question de communion sous les deux espèces. C'est une communion de recevoir notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et donc de croire que quand vous recevez notre Seigneur, il faut le recevoir avec le plus d'amour possible. Il est à la fois votre Dieu, votre roi, votre sauveur, mais aussi votre frère aîné, il s'est fait homme. Donc c'est sûr que, alors qu'est-ce qu'on fait? On communique comme les premiers chrétiens debout, parce que nous sommes des personnes humaines et Jésus est une personne humaine qui se donne à nous, d'homme à homme, hein. Très bien. Seulement il est aussi Dieu, il est aussi notre sauveur. Voilà. Donc il est très bon de communier à genoux. Ensuite, communier sur la langue. Pourquoi? Ben, si vous voulez, vos mains. On dit, ah, mais parce que vous n'avez pas les mains consacrées. Ben, les premiers chrétiens, pendant 200, 300 ans, n'avaient pas les mains consacrées et communiaient dans la main. Mais petit à petit, par patriarcat, les femmes qui étaient toujours voilées communiaient parfois à travers un voile. Vous voyez? Parce que, voilà, hein, bon. Vous savez, c'est comme, c'est patriarcal, c'est le Moyen-Orient, hein. Donc quand vous avez des musulmans qui conduisent un bus, ils arrivent, il y a une femme qui était assise avant. C'est une femme. Elle peut être impure. Pourquoi? Eh, parce qu'elle a son saignement menstruel. Dis donc. Donc il ne s'assied pas sur le fauteuil. La vache. Il ne serre pas la main. Vous voyez? Eh bien, ne rigolez pas, mais dans les siècles passés, ben, c'est vrai que la femme était un peu marquée encore par cette tradition. Sauf qu'elle n'était pas répudiable. La femme chrétienne, c'est la femme qu'on ne peut pas répudier. Donc, la femme est devenue l'associée de l'homme, même en Europe, surtout en Europe, et dans tous les pays, même orientaux. Parce que le maronite de base, hein, le Libanais bien, bien, bien oriental, vous voyez, eh bien, il ne peut pas répudier sa femme. Et donc les villages maronites sont différents des villages musulmans. Parce qu'il n'y a pas de possibilité de divorcer, de répudier, mais non plus, et de nos jours, de divorcer. Je vous ai déjà expliqué que pour les juifs, c'est la répudiation, et pour les musulmans, c'est la répudiation. On est en 2019, c'est pas. Donc c'est les deux, quoi, maintenant, de nos jours. Mais rituellement, la femme ne peut pas se remarier si elle n'a pas été répudiée religieusement. C'est ce qu'on appelle le guet chez les juifs. Je ne sais pas comment ça se passe chez les musulmans, mais ça doit être la même chose. Si c'est la femme qui est partie et que l'homme dit c'est toujours ma femme, elle n'est pas partie. Elle peut avoir un divorce civil, elle n'est toujours pas séparée. Il n'y a que l'homme qui puisse la libérer en la répudiant. Et chez les juifs, c'est rituel. Ce qui fait que vous payez le rabbin pour avoir le décret de répudiation et vous payez le mari. Si c'est la femme qui a voulu partir, le mari, lui, ah bon? Et tu veux te remarier à la synagogue avec un autre? Eh bien, tu pourras attendre. Je ne te répudie pas. Vous voyez? Alors, les femmes communiaient à travers un voile à un moment donné, et puis à un moment donné, tout le monde a communié à genoux. Alors, ce n'est pas donc une question de main consacrée. C'est un bon argument, mais ce n'est pas un excellent argument. C'est parce que on adore et on respecte notre Sauveur. C'est ça. Parce que vous voyez, Saint Tarcisius n'était pas prêtre et il portait la Sainte Communion aux prisonniers qui allaient être mangés par les lions quelques jours plus tard. Vous voyez. Il avait avec lui une custode. En latin, custos, c'est le gardien. Donc on garde, c'est des petites boîtes. Hein, mais une custode, ça peut être aussi un bijou pour des choses, des médicaments de nos jours, enfin voilà. Mais une custode, dans l'art chrétien, dans la liturgie chrétienne, c'est là où on garde le Saint-Sacrement. Sur soi. Ou une pyxide. Et donc, il l'avait sur lui, il allait à la prison pour donner la communion, mais il était tonsuré, je crois qu'il était lecteur. Ou acolyte, je sais plus, Saint-Tarcisius. Il était dans les ordres mineurs. Il est agressé par des païens qui voient qu'il est chrétien, qui le frappent et qui le tuent. Mais miraculeusement, ses mains ne s'ouvrent pas sur la custode. Et ils ont beau essayer d'arracher les doigts, enfin de tirer les doigts, tout ça, impossible. Et ils le laissent. Et là, des chrétiens viennent, appellent un prêtre, et c'est le prêtre qui délie Pour rester dans mon style taquin, pendant la guerre d'Espagne, par les armées napoléoniennes, vous avez des soldats français, sacrilèges, qui ont fait des horreurs, hein, qui ont tué des prêtres, tout ça, et qui saccageaient des églises. À un moment donné, il y en a un. Après le saccage de l'église, il y avait un calice. Et il s'amusait à boire du vin, alors tonneau ou alors outre, avec le calice. Donc il était là, il a bien juré, bien blasphémé, il a pris sa rasade, il a bu et il est mort sur le coup. Ça jetait un froid. Vous voyez? Et on ne pouvait pas lui retirer le calice de la main. Impossible. Et ils sont partis, ils l'ont pas enterré, ils sont partis. Des catholiques sont arrivés, les Espagnols, mais bon, eux aussi étaient des anciens catholiques, mais pris par l'esprit révolutionnaire, hein. Et donc les Espagnols sont arrivés, un prêtre est venu, il a pris le calice, et la main s'est ouverte. Alors voyez-vous, il est sûr que la communion à genoux et sur la langue, c'est celle qui correspond, si vous voulez, à préserver le respect dû à notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, voilà, tout en sachant qu'un jour, dans la nécessité, vous pouvez très bien porter la communion à quelqu'un de malade, qui en a un besoin spirituel très intense. Alors qu'un prêtre ne peut pas venir. Ah, ça va vous faire tout drôle. Même dans la tradition, c'est possible. Hein. Et donc, on vous donnera un corporal, un petit rituel à suivre, des prières pour donner la communion à quelqu'un qui en a si vous voulez, il y a une détresse spirituelle. Mais c'est uniquement dans la détresse spirituelle qu'un laïc peut donner la communion. Des prisonniers, des grands malades, avec une très grande raréfaction des prêtres. Quand vous avez des aumônières ou des pieux laïcs qui portent la communion dans les hôpitaux, alors que le prêtre pourrait le faire, c'est dommage. D'un autre côté, les prêtres vont dire « mais je ne ferai que ça ». Ben oui, mais pourquoi pas? Oui. Oui. Voilà. Alors, il y a eu un petit trouble dans la force, n'est-ce pas? Donc, vous avez le diocèse a fait un rappel, du passé. Alors le passé, dans l'archéologie chrétienne, quand vous étiez baptisé, vous étiez confirmé et eucharistié. C'est ce qu'on appelle les trois sacrements de l'initiation. Le baptême vous remet le péché originel avec certitude par rapport à un acte de contrition parfaite et vous êtes en état de grâce avant le baptême. Ou un baptême de désir tellement intense qu'il vous remet et vous avez l'état de grâce avant le baptême d'eau. Disons qu'avec le baptême d'eau, il y a vraiment une grâce toute particulière et notre Seigneur est bien plus puissant que votre piété personnelle. Les mérites infinis de sa passion vous sont donnés. Du coup, tous vos péchés passés, alors vous pouvez en parler à un prêtre, mais hors confession, parce qu'il serait irrespectueux pour le baptême de parler de ses péchés avant le baptême. Voyez, vous n'êtes pas encore baptisé, donc vous ne pouvez pas vous confesser. Et vous, après que vous soyez baptisé, vos péchés sont remis et même la peine due au péché est remise. Et ce serait un manque de respect pour la miséricorde et la puissance de Dieu d'évoquer vos péchés dans une confession. Par contre, si vous avez des scrupules, si vous avez envie de parler de votre enfance et de ce que vous avez pu faire ou pu subir, bien sûr, vous pouvez en parler à un prêtre. Alors vous dites, oui, mais j'aurais pas la garantie du secret sacramentel. Si on le torture, il parle. Oui, si on le torture, il parle. Il n'aura pas la grâce de ne pas parler, même sous la torture, car même sous la torture, les secrets de confession n'ont jamais été donnés. On n'a pas d'exemple. Par contre, en direction spirituelle, ce qu'on a pu vous dire, sous la torture, peut-être que je me laisserai aller. Mais encore, vous voyez, peut-être pas, justement. Parce que en direction spirituelle, ce qu'on vous dit, ce qu'on dit à un prêtre, le prêtre doit le garder absolument secret. Et fait un péché très grave, sans être excommunié ipso facto, par le fait même, pour la confession. Mais si vous dites en direction spirituelle, en entretien seul à seul avec un prêtre, quelque chose qui vous pèse de votre passé, vous pouvez le dire. Oui. Voilà. Donc, les sacrements d'initiation, c'est donc le baptême. Et ensuite, tout de suite après, on vous confirme. Et en Orient, on a gardé cette habitude, même si c'était les premiers chrétiens étaient des adultes. Des Romains, des Grecs, des Tarses, des machins, tout ce que vous voulez. Et donc, ce qu'ils vous font, c'est ils confirment le bébé. Alors vous allez me dire, alors pourquoi en Occident on confirme lorsqu'on est en pleine conscience, au moins à partir de 7-8 ans, et pourquoi en Orient on confirme des bébés inconscients? Eh bien, c'est une coutume, une tradition différente. De toute façon, la grâce passe. D'une part pour le bébé, comme pour le baptême. Et là, l'Esprit Saint développe, épanouit encore plus la grâce du baptême. Que vous avez la Sainte Trinité qui habite en vous, par le baptême. Dieu n'est pas trois dieux. Donc, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il vient à trois, à un. Et ce qui fait que l'Esprit Saint, vous l'avez déjà au baptême. La confirmation amplifie l'action de l'Esprit Saint. C'est une supplication particulière. Et l'onction d'huile signifie cette prise, cette emprise plus profonde de l'amour du Père et du Fils, une prière particulière qui est la confirmation. Vous êtes confirmé dans votre baptême. Mais le baptême est très puissant et il laisse un caractère, une marque dans votre âme, que même si vous devenez monstrueux, apostat, délirant, tout ce que vous voulez, vous la garderez. Et elle appellera la grâce. Elle appellera la présence de Dieu. C'est comme un sceau dans votre âme. La confirmation provoque le même sceau. Un autre sceau, mais un sceau, c'est-à-dire il appelle la grâce de la confirmation à revenir même après chez vous un acte de méchanceté consommé. Alors il y a l'acte de méchanceté de faiblesse, mais qui peut nous faire perdre la grâce. Vous voyez, divulguer un secret par méchanceté et jalousie. Voyez, vous avez un collègue qui est alcoolique, mais il est dans un bureau. Et vous dites à son supérieur, il est alcoolique, vous savez, le week-end. Voilà. Par contre, il est conducteur de bus. Vous devez le dire à son supérieur. C'est pas pour rire que vous devez lui dire. Vous ne péchez pas. Par contre, il est bureaucrate ou il est employé dans un magasin pour couper des fleurs. Il est fleuriste. Qu'il soit alcoolique, vous n'avez pas à le dire. C'est un péché mortel. Vous diffamez cette pauvre personne. C'est pas une calomnie, hein, c'est une médisance, mais grave. On ne dit pas facilement que quelqu'un a cette maladie. Parce que c'est une maladie humiliante et il faut aider la personne plutôt que l'enfoncer. Alors les péchés d'impureté sont les plus connus, mais en effet, en soi, ils font perdre la grâce. Parce que c'est une matière grave, la sensualité humaine. C'est pas rien, cette capacité qu'on a d'être ému, d'être affectueux avec notre corps et qui est réservée au mariage. Alors même que cette sensualité est difficile à maîtriser par le fait même des conséquences du péché originel. Nous ne sommes pas assez intègres pour contrôler notre sensualité. Alors, la matière est grave. Le plein consentement, ben, vous savez ce que vous faites. Vous vous procurez un plaisir réservé aux époux, seul ou avec d'autres, mais qui n'est pas votre époux ou votre épouse. Vous savez que vous le faites. Et vous voulez le faire. Ça vous échappe pas, vous n'êtes pas violé ou attaché. Je sais pas. Et alors, à ce moment-là, voyez-vous, c'est grave. Mais alors, quand vous avez des personnes qui, à cause de la pornographie, Internet et compagnie, vont toutes les semaines faire des péchés d'impureté seuls. Alors c'est un vrai ping-pong, ils ont la grâce, ils perdent la grâce, ils retrouvent la grâce, à chaque confession. On est baptisé qu'une fois. Eh bien, on ne sait pas. Et parce qu'on ne sait pas le degré de malice des péchés de sensualité, on s'en confesse humblement. Mais autrefois, on se confessait beaucoup moins souvent, et les hommes étaient moins lourds pour eux. Et on communiait moins souvent. Hein, je vous l'ai déjà dit dans les leçons sur cela. Mais donc, à savoir pour des catéchumènes, il faut que vous sachiez que la première fois où vous allez pécher, et ça va vous faire de la peine en vous disant c'est estimé grave et j'ai peut-être perdu la grâce de mon baptême, eh bien, par la confession, vous la retrouvez et le caractère baptismal l'appelait cette grâce. Et votre caractère de confirmation appelle cette grâce. Et alors, qu'est-ce qu'on fait en Orient? On vous donne le troisième sacrement, même si vous êtes bébé. Alors que c'était une habitude et une coutume qui vient des premiers chrétiens. On avait des adultes qui étaient, un homme était présenté par un homme, par pudeur, puisqu'on le baptisait par immersion. Il était nu et on lui mettait un vêtement blanc, une aube, alba, blanc. Et une femme était baptisée nue, donc c'était une femme qui était sa marraine. Et quand la communauté chrétienne a eu beaucoup de a eu des bébés, alors on a baptisé les bébés, mais comme toute la famille de Corneille a été baptisée, donc les enfants aussi. Hein, le fait de baptiser les enfants, c'est pas une nouveauté, c'est pas parce qu'on a eu des enfants. On a toujours baptisé les bébés, comme les juifs faisaient une circoncision pour les enfants de 8 jours. Hein. Eh bien, par habitude de l'adulte, baptisé, confirmé, eucharistié, on lui donnait le corps du Christ, notre Seigneur Jésus-Christ. Dans cet ordre-là, en Occident, là, depuis quelques décennies, on a dit, on va faire de l'archéologisme. Alors qu'on prend un casque de spéléologue, on prend une lumière, mais qu'est-ce qu'on faisait dans les premiers siècles? Et on va l'imposer aux adultes. Alors, du coup, comme on n'est pas en Orient, on peut être baptisé, pas encore confirmé. Donc, pas encore eucharistié, puisque c'est dans l'ordre baptême, confirmation, eucharistie. Hein? Donc voilà, c'est la raison pour laquelle le diocèse nous ayons rappelé cette restauration merveilleuse des sacrements d'initiation à la nuit de Pâques. Si vous voulez, en Occident, en effet, on était souvent confirmé dans la nuit de Pâques après le baptême. Sauf que dans les paroisses, quand il y a des baptêmes d'adultes, dans la tradition, je ne vais pas vous confirmer. J'ai le pouvoir de vous confirmer. Les prêtres ont le pouvoir de confirmer en état de nécessité. Mais alors, il faudrait que je vous blesse à mort juste après le baptême, et comme ça, je vous confirme. Mais ça ne le fait pas. Oui. Bon. En l'onction derrière aussi, enfin voilà. Bon. Et donc, il y a encore, non, vous venez d'être baptisé, donc l'onction n'est pas utile. Voilà. Mais pour soulager votre corps dans l'angoisse et les souffrances, bon. Eh bien, voyez-vous, baptême, confirmation, eucharistie. Donc du coup, nous on a dit oui, on va voir ça et on vous laisse la liberté, étant donné que vous savez, vous êtes préparé à la première communion, de communier dans la nuit de Pâques. Mais ceux qui veulent restaurer en fait des coutumes qui datent plutôt des premiers siècles et qui sont gardées en Orient, mais en Orient c'est pour les bébés. Et un adulte, c'est pénible pour lui, il est baptisé et puis voilà. Et il y a notre Seigneur qui est là, et il doit attendre la confirmation. Alors, vous êtes libre de communier avant la confirmation. Voilà. Donc c'est clair. Avez-vous des questions? On a parlé de la confession. Donc la confession, hein, vous savez, on se met à genoux. On ne dit pas « Pardonnez-moi mon père parce que j'ai péché, sinon le prêtre déchire ses vêtements et s'arrache les cheveux. Suis-je Dieu pour vous pardonner ?» Et il sort du confessionnal en hurlant. Donc c'est « Bénissez-moi mon père parce que j'ai péché » ou alors « Pardonnez-moi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit parce que j'ai péché. » Mais je ne peux pas vous pardonner tout seul. Pardonnez-moi mon père parce que j'ai péché. Mais pourquoi vous m'avez fait quelque chose? Vous voyez? Si vous m'avez offensé personnellement, vous dites pardonnez-moi. Je dis je vous pardonne. Mais en ce qui concerne des péchés qui ne me concernent pas, je ne peux pas vous pardonner. Par contre, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je peux. Ouais. Bénissez-moi mon père parce que j'ai péché. Et normalement, sauf si vous avez beaucoup de personnes qui attendent, vous pouvez dire le confiteor. Je confesse à Dieu avant d'être avec le prêtre. Ça fait gagner 30 secondes, et 30 secondes par 30 secondes par 30 secondes, éventuellement. Bon. Donc, je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais, je confesse à Dieu de Confiteur de Omnipotenti, à la Vierge Marie, à Saint-Michel-Archange, à Saint-Jean-Baptiste, à tous les saints, à Saint-Pierre-Saint-Paul. Et donc, vous dites cela. Normalement, c'est jusqu'à mea culpa. Ensuite, vous dites, depuis combien de temps vous vous êtes confessé? Votre dernière confession, j'ai reçu l'absolution, j'ai fait ma pénitence, et voilà mes péchés. Et à la fin des péchés, vous dites, je regrette ces péchés, ceux que j'aurais pu oublier, qui sont indirectement pardonnés. Parce que vous n'êtes pas obligé de noter vos péchés par écrit. Pendant des siècles, les gens, 90% étaient analphabètes, donc ils notaient pas par écrit leurs péchés. Si vous voulez que ça soit écrit, vous pouvez écrire, hein. Et ce que j'aurais pu oublier, c'est indirectement pardonner. Parce que vous êtes sincère au moment de la confession. Si vous vous rappelez que vous avez tué votre voisin, mais après la confession, c'est grave. Donc vous devez le confesser dès que possible à votre prochaine confession. Il dit, j'avais oublié ce péché, il m'a été pardonné indirectement, mais la Sainte Église me demande, parce que c'est un péché grave, de le faire pardonner directement, je le dis en confession. Mais comme vous avez été pardonné indirectement, vous pouvez attendre. Vous n'avez pas à vous confesser dès que possible. À la prochaine confession, vous dites, j'avais omis, hein, il faisait tellement de bruit, je suis sorti, je l'ai flingué. Donc, je l'ai enterré dans le jardin, tout va bien, voilà. Ai-je l'obligation de me dénoncer ? Pas forcément, si vous avez charge d'âme, si c'est trop onéreux pour vous, vous n'avez pas à vous dénoncer. Si vous êtes un tueur en série ici, je vous refuse l'absolution parce que vous allez continuer à tuer. Ah non, mais non, c'était un crime tout à fait ponctuel, c'était il y a 15 ans, je me suis énervé qu'une fois. Bon, vu comme ça, si vous vous dénoncez, votre famille va être impactée. Par contre, vous devez essayer de retrouver la famille de la victime et lui renvoyer anonymement de l'argent pour les aider de la perte de cette personne. Oh, mais c'est une vieille dame de 92 ans qui était très désagréable. Bon. Vous devez quand même faire quelque chose, donner quelque chose aux pauvres, ou voilà. On doit réparer le mal qu'on fait. Vous voyez ? Donc même si en confession vous n'êtes pas obligé de vous dénoncer à l'extérieur, ce qui en ce moment en Australie on veut obliger à ce qu'on, eh bien, on doit réparer. Et si la personne dit je ne réparerai pas, on ne donne pas l'absolution. Donc vous allez dire oui, mais alors il dit quelque chose, la police devrait le savoir. Eh bien que la police fasse son enquête. Si vraiment il n'y a que une accusation en confession qui fait avancer l'enquête, c'est que c'est le crime parfait. Donc, c'est le sanctuaire de la confession. Et pour vous, dites-vous bien, quoi que vous fassiez dans l'avenir, en confession, vous pouvez toujours recevoir l'absolution si vous regrettez sincèrement. Toujours. Alors, maintenant,